Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast « La lumière d'une rencontre », réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap, ou la maladie, ou qui y est sensible. Le thème de l'épisode est toujours en lien avec le numéro d'Ombres et Lumières en cours. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Frère Jérémy, bonjour.
Bonjour Guillemette.
Alors, merci d'être venu témoigner au micro de la lumière d'une rencontre. Alors, vous avez 39 ans et vous êtes membre de la congrégation de l'Oratoire et également séminariste pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors, si je vous tends le micro aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre longue expérience de jeune aidant avec le recul que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est un terme assez nouveau, jeune aidant, donc qui désigne un proche qui vient soutenir un frère, une sœur ou un parent malade ou handicapé. Alors, vous, les deux situations vous concernent, puisque donc, vos deux parents étaient sourds, et, ainsi que votre grand frère. Et donc, vous avez un petit frère, voilà, vous étiez les seuls de la famille à entendre. Pour donner le contexte. Alors, voilà, pour commencer dans cette conversation, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre. Le quotidien dans cette famille, voilà, on imagine un peu naviguer entre deux mondes, celui des sourds et celui des entendants. Et voilà, quelle atmosphère y régnait ?
L'atmosphère, elle était, c'était une atmosphère de famille aimante, hein, vraiment. Tout se passait très bien, je voyais bien que mes parents se donnaient énormément. J'ai quand même eu la chance d'avoir deux parents qui travaillent à temps plein. Ma maman était assistante d'un haut fonctionnaire de la marine. Mon papa était chef cuisinier, donc il y avait quand même une stabilité de vie qui était sécurisante pour nous. Mon frère a été scolarisé dans une école spécialisée, un peu dans les quatre coins de la France. Et puis sinon, c'était un rythme de vie de famille tout à fait normal, avec des repas communs. La seule différence, c'est qu'il y avait beaucoup plus de silence. Tout se disait en langue des signes. J'avais quelques échanges avec mon petit frère, mais c'est vrai qu'on est quand même plongé dans un monde de silence où le langage est la langue des signes. Donc c'est ce qu'on a développé en premier.
Vous avez tout de suite appris, vous, donc naturellement.
Oui, j'ai appris la langue des signes avant de parler, oui. Donc ma maman me disait vers l'âge de 2 ans, oui. Oui. Et donc forcément, un monde... beaucoup plus sensible que d'ordinaire, puisqu'il y a une attention au regard qui est importante. Il y a une écoute plus importante, puisqu'il faut aller au bout de la phrase en langue des signes pour saisir ce que la personne dit. Et puis, une vision globale de ce qui se joue dans l'environnement. Ça, c'est, je pense que c'est la sensibilité chez les personnes sourdes, c'est-à-dire le regard sur l'environnement, et puis une attention... vraiment un focus sur la personne qui est en face, parce que si on tourne la tête, on ne voit plus le geste. Alors que quand on parle, on peut tourner la tête, on en continue d'entendre. Oui.
Voilà. Merci pour cette présentation de votre famille. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi vous aidiez vos parents concrètement ?
Au quotidien, je dirais qu'il y avait donc c'est une sollicitation permanente pour aider mes parents. Ça a commencé à l'âge de 6 ans et j'ai commencé tout simplement par téléphoner à ma grand-mère pour prévenir que mes parents venaient, enfin qu'on venait en famille rendre visite à nos grands-parents. Et puis très vite, ça a été de téléphoner pour prendre des rendez-vous médicaux. Quelques années plus tard, c'était surtout lire les courriers pour mes parents pour confirmer qu'ils avaient bien compris ce que signifiait le courrier. Ça a été prendre des rendez-vous administratifs, se déplacer dans les banques ou à la caisse d'allocation familiale pour faire souvent des réclamations de suspension de prestations, d'erreurs administratives. Aller dans les banques, ça a été aller dans les réunions parents-professeurs. Où là, en fait, c'est assez étrange parce que c'était des fameux conseils de classe où le professeur parlait de moi-même à mes parents. Et donc, j'étais là en train de traduire en langue des signes ce que le professeur disait de moi. Ils avaient de la chance parce que j'étais plutôt bon élève et donc il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait rien à cacher, et si ce n'est les bavardages réguliers en classe. Et sur ça, j'ai été quand même honnête. Voilà, donc faire l'interface entre le monde et la vie familiale. Ouais. Je pense que... je suis convaincu que mes parents savent se débrouiller. Ils le savaient avant qu'ils me sollicitent. J'ai jamais demandé d'explication à mes parents, mais je pense que à partir du moment où ils ont pris conscience que je pouvais être un enfant qui rendrait des services, en tout cas qui était en capacité de les aider, ils ont saisi l'opportunité. Voilà. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est comme de la même manière que des parents vont demander à leur fils ou leur fille de, par exemple, de mettre le couvert quand ils estiment qu'ils ont l'âge pour le faire. Et bien, dans ma famille, c'était tu peux nous aider à écrire des courriers ou à téléphoner ou à traduire des rendez-vous parce que tu es en capacité de le faire. Et de fait, j'ai très vite saisi l'importance, l'enjeu que ça avait pour mes parents. Et donc forcément, ça a orienté toutes mes capacités intellectuelles dans le niveau scolaire, puisque j'ai quand même eu des brillantes études. Et je l'ai fait parce que je savais que ça allait aider mes parents.
Voilà. Vous avez un peu endossé cette... pas casquette, mais vous êtes dit... Ok, je peux être utile pour mes parents.
Je me suis dit, je peux être utile. Et le seul moyen que j'ai pour être utile, c'est de m'investir totalement dans ma scolarité. Ça a apporté ses fruits, justement, puisque pour corriger un courrier, il faut être bon en orthographe. Pour téléphoner, il faut pouvoir parler clairement. Il faut pouvoir saisir les informations que mes parents donnent pour pouvoir les restituer à des professionnels, tout milieu confondu. Ça peut être la santé, le secteur administratif ou associatif. Et donc forcément, j'ai anticipé une demande en me disant si je fais ça, je mets tous les moyens de mon côté pour donner toutes les chances à mes parents d'être un peu plus intégrés dans le monde.
On parlera peut-être un peu de ce rôle-là qui devait être à la fois, qui vous a peut-être propulsé un peu plus dans le monde un peu des adultes, peut-être plus tôt que certains de vos camarades. Et simplement pour comprendre à l'école, vous accompagnez souvent vos parents, par exemple, des réunions parents-professeurs, etc. Comment un peu réagissait l'encadrement scolaire, les professeurs, vos camarades? Est-ce que c'était une situation... Est-ce que vous étiez un peu mal à l'aise avec ça? Comment vous arriviez à un peu assumer cette situation familiale pas forcément commune, un peu commune?
Oui, alors deux réactions totalement différentes. Au niveau des camarades, on me disait souvent que j'étais pas l'enfant de mes parents, puisque on comprenait pas à cet âge-là que des parents sourds puissent avoir des enfants qui entendent. Donc on me disait souvent que j'étais adopté. Je l'ai presque cru à un moment donné. Je l'avais gardé pour moi et puis un jour ça s'est sorti devant mes parents et ils étaient assez peinés et ils m'ont dit non, t'es vraiment notre fils. Voilà. Donc ça c'est plutôt la réaction un peu chez les jeunes. Dans le corps enseignant, ça a été très bien intégré. Peut-être qu'on considérait pas assez ce que ça engageait pour un enfant d'aider ses parents et d'être présent. Moi personnellement, c'est une époque où peut-être que je le suis encore maintenant, mais moins. J'étais quelqu'un d'assez timide. Et c'est vrai que traduire une réunion avec tous les autres parents qui sont présents, ça exige que déjà on soit au premier rang, parce que mes parents voulaient voir les personnes. Il y a besoin d'un contact visuel, donc forcément, ils se demandaient d'être au premier rang. Moi, ça m'a obligé d'être au premier rang et de traduire devant tout le monde à mes parents ce qu'ils se disaient. Et forcément, c'est à un âge où j'avais pas du tout envie d'être exposé, je préférais être plutôt discret. Surtout que ma vie familiale faisait que j'étais plutôt solitaire. Je baignais quasiment uniquement dans le contexte familial. Et les amis, c'était pas évident parce que j'étais sollicité quasiment à temps plein pour mes parents. Donc j'étais surtout avec mes parents et j'étais beaucoup avec des adultes aussi à cet âge-là, donc entre 10 et 18 ans. Voilà. Donc j'ai eu un cercle d'amis très restreint. C'était forcément les meilleurs de la classe. Et donc le reste, c'était ma famille et les amis de mes parents. Voilà.
Vous parlez donc beaucoup de vos parents. Est-ce que vous apportez aussi une aide aussi concrète avec, pour votre grand frère, ou un peu moins, enfin, vous sentiez moins...
Mon grand frère, il y avait moins de démarches parce qu'il était scolarisé. Là où il y avait des aides, c'était quand on déposait un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées pour une subvention ou pour une aide financière. Là, effectivement, j'ai rempli les dossiers de mes parents et de mon grand frère. Voilà. C'était secondaire, mon grand frère. C'était plutôt secondaire, oui.
Et pour revenir un peu sur la notion d'aide, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je constate bien quand même, vous parliez de mettre le couvert par exemple tout à l'heure, qu'il y a quand même une différence entre aider ses parents à mettre le couvert et en effet aider ses parents dans toutes ces tâches que vous évoquez. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, waouh, c'est quand même lourd ce que je porte, enfin, à quel moment il y a eu peut-être un petit déclic?
Ah oui, le déclic... Alors, le déclic, il se fait pas sans souffrance, hein, quand même. Hein. Enfin, je voudrais quand même revenir sur cette partie où c'est quand même assez douloureux d'être sollicité de manière un peu, entre guillemets, intempestive. C'est-à-dire que je fais mes devoirs et d'un coup, mon papa me demande, est-ce que tu peux téléphoner au médecin pour prendre un rendez-vous? Et puis, peut-être une heure après, est-ce que tu peux me traduire cette lettre? Est-ce qu'il y a un problème? Et donc, forcément, au début, on le fait avec obéissance, et puis quand c'est quotidien et très régulier, à un moment donné, il y a une petite rébellion qui se fait, et moi, j'ai régulièrement dit non. Et la remarque que me faisaient mes parents, c'est, j'ai compris ça plus tard, qu'ils me disaient, mais si tu veux pas le faire, c'est parce que tu nous aimes pas, c'est parce que tu acceptes pas notre handicap. Donc là, j'ai compris plus tard, mais là, je saute des étapes, que c'était, entre guillemets, un chantage affectif. Et donc forcément, moi je suis passé, j'ai demandé à voir une psychologue à partir de 15 ans, contre l'avis de mes parents, mais j'ai insisté parce que j'avais besoin de faire le point sur qui j'étais. Je me sentais quelqu'un d'utile, mais je me sentais pas forcément quelqu'un d'aimé pour ce que je suis. En tout cas, il y a une dissociation qui s'est fait en moi à ce moment-là, un doute qui s'est installé, et donc j'avais besoin de mettre au clair cette affaire-là. Donc avec une psychologue, on a travaillé sur mon identité dans la famille, ma place dans l'école, dans l'environnement beaucoup plus large, puisque un enfant qui est projeté dans un monde d'adultes aussi, ça pose la question du positionnement. Les cercles d'amis aussi, comment retrouver un cercle d'amis et apprendre à différer les demandes. Parce que moi, je me braquais, je disais non. Et donc ça crée une tension dans la famille. Et tant que je disais non, finalement, je savais que je tenais quelque chose. Vous voyez, c'est presque un peu mal.
Contrôle un petit peu.
Il y a une forme de contrôle pour dire, je vous aiderai quand j'aurai décidé. Et donc avec la psychologue, on a travaillé sur la notion de différer les oui, c'est-à-dire oui, mais pas tout de suite, dans un quart d'heure, dans une heure ou demain. Et effectivement, pour l'avoir testé, ça a vraiment marché tout de suite. Alors, il se trouve que c'est des demandes ponctuelles sur des sujets qui ne nécessitent pas une aide physique. Clairement, ce n'est pas du tout la même chose quand il faut aider sa maman à faire la toilette. C'est pas du tout pareil. Mais toujours est-il que ça m'a aidé. Et je pense que ce travail, puisque ça a duré 5 ans quand même, ce travail, à un moment donné, m'a fait basculer. En me disant, Jérémy, il y a quelque chose de très particulier dans ta famille, tes parents sont sourds. Ma maman disait toujours qu'elle avait été créée parfaite aux yeux de Dieu. Et que moi, ça m'avait vraiment surpris ce qu'elle disait. Parfaite aux yeux de Dieu, et que c'était aux yeux de la société qu'elle était considérée comme une personne handicapée. Mais pour elle, il lui manquait rien. Voilà. Et c'était assez édifiant comme témoignage. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était... pas un inconvénient, le handicap, en tout cas dans ma famille, mais c'était une force. C'était devenu une force, donc peut-être 16 ans, 17 ans. Une force parce que dans ma famille, et je pense dans beaucoup de familles de personnes sourdes, la surdité, au-delà du handicap, est une identité, parce qu'il y a un langage qui accompagne la vie. Et donc forcément, il y a une identité, il y a une manière d'être, il y a une manière sensible d'être au monde. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait effectivement... une force, une fierté, c'était par étapes, une force, une fierté. Et du coup, me dire, eh bien, ce petit plus que j'ai, je peux le mettre au service de d'autres personnes que mon cercle familial. Et c'est ce que j'ai développé ensuite dans mes premières activités professionnelles, c'est-à-dire le conseil aux personnes sourdes. Donc je travaillais en banque et donc j'avais organisé une réunion d'information sur les produits bancaires puisque je savais qu'il y avait un manque cruel d'informations à ce niveau-là. Et donc effectivement, à travers une association, on a pu réunir beaucoup de membres et j'ai pu faire une conférence sur les produits bancaires pour les informer, pour les rassurer. Voilà, ça c'était une fierté et donc c'était devenu un atout que je pouvais mettre au service de la société aussi.
Le passage à l'âge adulte, beaucoup de jeunes aidants qui se sont aussi confiés pour notre dossier dans la rue Ombre et Lumière sur les jeunes aidants évoquent voilà, que c'est parfois compliqué aussi de ne pas culpabiliser pour aller un peu de l'avant dans sa propre vie, de construire sa vie, de trouver sa vocation dans le monde et de quitter le foyer familial. Comment vous, ce passage, comment vous l'avez vécu ?
Alors moi, j'ai eu la chance de plutôt bien le vivre, puisque comme je vous disais, j'étais accompagné par une professionnelle. J'ai anticipé ce moment-là, donc à 17 ans, 18 ans, on avait évoqué ce sujet de la prise d'autonomie, et en prenant mon autonomie, c'était aussi de rendre l'autonomie à mes parents, parce qu'ils sont fondamentalement autonomes, mais il y avait une dépendance qui s'était créée, malgré nous, voilà. Et donc il fallait rendre cette autonomie. Donc avec mes parents, on a travaillé pendant un an. Je les ai prévenus en disant peut-être qu'à 18 ans, je vais travailler, je vais avoir mon appartement, ouais. Il faudra penser à la suite, comme une forme de succession en fait. Et donc j'ai fait des...
Et réalisez comment ça, quand, lorsque vous indiquiez cette...
Alors pour eux, c'était angoissant. Mais c'est vrai, moi, j'avais pas perçu que je m'étais rendu indispensable, en fait. C'était pas du tout volontaire de ma part. Peut-être que ça a alimenté chez moi aussi un désir d'être le sauveur, entre guillemets. Mais ça s'est fait un peu à mon insu. Donc, pour eux, assez angoissant. Et donc, avec la psychologue d'un côté, après, je faisais le retour avec mes parents. Et donc j'ai proposé une solution de créer un classeur pour rassembler tous les contacts, en tout cas administratifs, santé, dans un classeur. Et j'ai fait des modèles de courrier à mes parents pour un changement d'adresse, un changement d'abonnement. Et donc ma maman, c'était plutôt ma maman qui gérait les papiers. Elle avait rassemblé tout dans un classeur. Le jour où... Bon, je vous raconte une petite anecdote quand même un peu délicate, mais je me souviens que mes parents, ils ont voulu acheter un appartement et c'était le projet de leur vie. Ils pensaient que c'était infaisable et comme moi j'étais travaillé en banque, je les ai aidés dans une autre banque, pas dans celle dans laquelle je travaillais, à constituer un dossier. Et puis au moment où je devais partir, donc quitter le foyer, j'ai demandé à ma maman, j'ai dit alors t'en es où dans tes démarches? Et puis je lui ai dit est-ce que tu connais le montant de ton prêt immobilier? La réponse non. J'ai dit tu connais le nom de ta conseillère? Non. J'ai dit tu sais sur combien d'années t'as emprunté? Et elle me disait non. J'ai dit bah tu vois, j'ai dit il faut que tu sois responsable parce que c'est ton projet de vie, c'est pas le mien, même si moi je t'ai aidé, moi je vais partir. Et donc si tu sais pas ça, en fait, tu vas emprunter de manière un peu irresponsable. Je sais que ça lui a fait de la peine que je lui dise ça, parce que sur le moment j'étais vraiment en colère, un peu fâché contre ma maman. Mais ce qui est dingue avec elle, c'est que en fait c'est une femme qui a une force de vie, une force de caractère incroyable, avec une grande sensibilité. Et je sais que la nuit, elle a passé toute sa nuit en fait à constituer le classeur. Et le lendemain matin, à la première heure, quand je suis sorti de ma chambre, elle est venue me voir en me disant « j'ai fait le classeur ». Et là, j'étais tellement fier de ma mère, tellement fier. J'ai vu mes parents grandir. Et on a grandi ensemble, en fait. Voilà. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en famille. C'est cet échange qui fait grandir les uns et les autres. Et c'est quand même assez particulier dans une famille.
Oui, la phrase « j'ai vu mes parents grandir » montre aussi le rôle quand même particulier qu'un enfant de parents handicapés, comme toute la beauté mais la lourdeur aussi de ce rôle que vous avez pu avoir.
Oui, ben, la beauté et la lourdeur, comme de la même manière qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de tension en même temps. Parce que mes parents, voilà, ils avaient envie de réussir leur vie. J'ai bien conscience qu'avec leur handicap, ils nous ont donné une très belle éducation à mes frères et moi. qui peut être considérée comme stricte, mais qui était rassurante pour eux dans le cadre de leur handicap. On n'a jamais manqué de rien, on est régulièrement parti en vacances. Mon papa m'a appris à gérer les comptes dès l'âge de 12 ans, avec un petit cahier. Enfin, c'est des choses que j'espère que les papas d'aujourd'hui le font encore. Voilà, moi j'ai des très bons souvenirs éducatifs de mes parents, et je voyais vraiment tout l'amour et tout le soin qu'ils mettaient à nous transmettre des valeurs. Par exemple, mon papa me parlait souvent de la valeur travail et de la stabilité. Pour lui, c'était vraiment important de ne pas changer de travail tous les deux ans et vraiment de trouver un employeur chez qui on se sent bien, en cohérence avec nos valeurs et nos compétences, et d'y rester pour toute la vie. Voilà. Et donc, j'ai grandi comme ça, avec cette idée de stabilité et de valeur travail, puisque eux-mêmes étant handicapés, ça n'a pas été facile pour eux de s'intégrer au travail. Ils ont fait avec. Je pense que le milieu professionnel n'a pas forcément facilité l'intégration. Mais c'est une époque, peut-être que ce n'est plus le cas maintenant. Je pense que les entreprises sont beaucoup plus sensibles à la cohésion d'entreprise. Et donc forcément, eux ayant travaillé jusqu'à leur retraite et s'étant donné quotidiennement, j'ai reçu cet exemple-là et j'essaye de l'appliquer aujourd'hui. Voilà.
Et avant de revenir sur ce passage un peu à la vie adulte où vous êtes partie de chez vos parents. Votre petit frère qui lui aussi entendait comme vous, est-ce que lui il était autant sollicité que vous ou pas?
Dans mes souvenirs, je pense qu'il a été rarement sollicité. J'étais là en permanence, j'anticipais tout. Parce que quand on aide des parents handicapés, en fait on développe une faculté d'anticipation des besoins. Et donc forcément, j'étais assez prévenant, assez attentif, très vigilant, voilà, un peu sur le qui-vive. Et donc mon petit frère a été un peu épargné par ça. Et en revanche, j'avais travaillé aussi avec mon petit frère au moment de mon départ pour qu'il puisse lui prendre le relais, ce qu'il a fait. Mais après, voilà, quand on a un référent, vous savez, c'est comme dans les services administratifs. Hein, quand on a un référent et qu'on sait qu'il s'occupe très bien de notre dossier, on va faire appel toujours au même. Voilà, c'est un peu le réflexe de mes parents à l'époque. Mais voilà, j'ai été effectivement moins sollicité en promenant dans mon appartement. Je faisais des allers-retours à la maison peut-être une fois par semaine. Alors au début, c'est ça qui est drôle, c'est que mes parents stockaient les courriers en attendant que j'arrive. Et mon grand frère aussi d'ailleurs faisait ça. Et donc j'arrivais et au lieu de passer un moment familial, je passais un moment un peu comme un assistant social, c'est-à-dire que je regardais tous les courriers, je disais ça c'est bon, tu peux classer, là il faut payer, là c'est une relance. Ça c'est pas très grave, c'est de la publicité par exemple. Voilà, donc je faisais ma petite heure d'administratif et puis après on passait à l'aspect familial. Mais j'avais quand même dit à mes parents que c'était bien qu'ils puissent traiter les choses au fur et à mesure et pas attendre que j'arrive le week-end, puisque un jour je viendrai seulement une fois par mois et voire une fois tous les trois mois, donc ce serait dommageable pour eux de stocker autant de courriers. Voilà. Maintenant, on est passé à l'ère du numérique, donc c'est autre chose.
D'accord. Voilà. Et enfin, pour être juste sûr, bien de comprendre, est-ce que c'était vraiment le langage qui pouvait parfois un peu manquer dans les façons de répondre? Ils n'avaient pas forcément les codes, entre guillemets, comme vous et moi. Qu'est-ce qui faisait que, par exemple, pour un courrier d'une banque ou d'électricité, je ne sais quoi, ils avaient vraiment besoin de votre aval ou de votre aide?
Je pense que c'est effectivement des éléments de langage qui sont propres au système administratif, avec des tournures de phrases parfois un peu compliquées ou en tout cas un vocabulaire spécifique auquel ils n'ont pas l'habitude de...
Dans le langage des signes, il n'y avait pas forcément...
La langue des signes, en fait, il n'y a pas... Effectivement, il y a des spécificités. Dans la langue des signes, il y a des spécialités. Par exemple, si on veut traduire dans le cadre de la médecine, il faut apprendre tout le langage lié à la santé pour pouvoir traduire, ce qui a été mon cas. Donc eux, ce n'était pas leur domaine. Je pense que foncièrement, ils comprenaient le courrier. De manière intuitive, ils avaient cette compréhension. Il fallait juste une confirmation. Voilà. Et souvent, c'était le cas. En fait, il comprenait bien le courrier, il me demandait juste, est-ce que j'ai bien compris? Et après, là où c'est le plus compliqué, c'est de répondre par courrier. Et donc là, il fallait rédiger les lettres. Alors au début, je rédigeais. Et grâce à l'aide de la psychologue, on est passé petit à petit à une proposition de « il rédige d'abord et je corrige ». Mes parents écrivent très bien et ils s'expriment plutôt bien à l'écrit. Ça reste des phrases très simples, mais en tout cas compréhensibles pour quelqu'un qui est dans l'administration. Voilà, et puis... Donc on est passé à ça, et puis une fois que le courrier était rédigé par eux, corrigé par moi, il le réécrivait, et je dis maintenant, avant de l'envoyer, tu fais une photocopie, tu le gardes dans ton dossier, et là tu peux envoyer le courrier. Donc souvent c'était ma maman qui s'occupait de ça. Ce qui fait qu'elle est venue, au final, elle avait plusieurs classeurs de courrier en fonction des différents acteurs de l'administration.
Et donc voilà, au fur et à mesure un peu de ces ajustements, est-ce que vous avez un peu senti est-ce que vous avez un peu repris votre place, entre guillemets, de juste enfant, même si vous ne l'avez jamais peut-être complètement, mais est-ce que petit à petit, les choses se sont un peu plus ajustées?
Ouais, c'est une bonne question, ça.
Ou est-ce qu'on est un peu, voilà, jeune aidant un peu toute sa vie, enfin aidant toute sa vie?
Ça m'arrive de, enfin quand je relis ce bout de vie, je me dis régulièrement que j'ai été le parent de mes parents. Peut-être que c'est pas ajusté hein, de le formuler comme ça, mais vraiment j'ai vu ma maman grandir, alors ça de manière très claire. Même dans son intégration dans la société ou voilà ou par rapport à la mode féminine et mon papa je l'ai vu aussi s'épanouir. J'avais vraiment un regard, c'est comme si j'avais eu un regard de père sur mes parents, voilà. Tout est donc difficile de rester l'enfant, ce qui fait que difficile de se laisser aider. Moi je me souviens ma scolarité. Bon, même si elle était brillante, j'aurais aimé que mes parents viennent de temps en temps checker un peu mes devoirs. Je les faisais naturellement, mais j'aurais aimé qu'ils soient présents et qu'ils me proposent leur aide. Bon, je pouvais pas leur réciter un poème, ça c'est clair. Je pouvais pas leur chanter une chanson que j'avais appris à l'école, ça, bon, c'est évident. J'aurais aimé qu'ils puissent corriger mes dictées et c'est vrai que à l'âge de 12 ans, et ça c'est assez ça fait un peu mal au cœur de dire ça, mais je pense que c'est un peu vrai. À l'âge de 12 ans, en tout cas, j'ai réalisé que je dépassais intellectuellement mes parents. Et c'est assez douloureux de se le dire, parce qu'on se dit, bah, en fait, mes parents ne pourront pas m'aider au niveau de mes études. Donc c'est moi qui ai aidé mon petit frère pour ses devoirs, également. Et donc voilà, cette difficulté enfin, en tout cas, ce constat de ne pas être aidé dans les études, et pourtant j'en ai discuté très régulièrement avec mes parents qui me disaient, bah, mon papa me disait souvent, mais toi, avec toi, tout se passe bien. T'as pas de problème de comportement, tu te débrouilles très bien à l'école, t'as pas besoin de nous, et nous, ça nous fait une difficulté en moins à gérer. On doit s'occuper de ton grand frère qui a des études spécialisées dans la menuiserie ou le PVC. Donc là, c'est très particulier, c'est des écoles qui sont dans les quatre coins de la France. Ton petit frère, il a un peu plus de difficultés au niveau du comportement, il va falloir qu'on l'aide. Donc nous, tant que ça va bien, on ne vient pas te voir. Et bon, voilà, j'aurais aimé peut-être qu'on me propose de l'aide. Et ce qui fait que ça peut expliquer que plus tard, après, j'ai eu du mal à accepter d'être aidé. Parce qu'en fait, je faisais tout tout seul, j'avais pas besoin d'aide. Ce qui en fait était faux. Voilà.
Oui, c'est ce que nous rapportent aussi beaucoup d'autres jeunes aidants dans les témoignages. Écoutez, voilà, on a appris à ne pas faire de vagues et au contraire, ne pas peser encore plus sur la situation qui est déjà assez ouais. lourde au quotidien pour ses proches. Peut-être une question sur votre parcours de foi, parce que donc, j'évoquais en introduction que vous êtes séminariste. Quel a été peut-être un peu l'appui qu'a pu être la foi chrétienne tout au long de ce parcours quand même particulier et chamboulé.
Alors, bon, déjà, mes parents ont été élevés par des religieux. Donc, mon papa chez les frères de Saint-Vincent-de-Paul et ma maman chez les sœurs de Bourg-la-Reine. Donc on a eu une vie de foi, pratiquant. Et moi j'ai été donc au catéchisme, j'ai été scout d'Europe également. Mais j'ai, à l'âge de 15 ans, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. On allait le dimanche à la messe avec mes parents. Et à un moment, en fait, je sais exactement quand est-ce que ça s'est arrêté. C'est le jour où ma maman m'a dit, Jérémy, maintenant vous êtes assez grand pour aller à la messe seul. Moi, ça fait des années que j'y vais pour vous accompagner, pour vous former, pour vous montrer l'exemple. Mais je n'entends pas la parole de Dieu. Et donc, comme je n'entends pas la parole de Dieu, ça me semble difficile de recevoir le corps du Christ. C'était son discours. Hein. Et de la même manière que je ne peux pas me confesser parce que je ne connais pas de prêtre qui parle la langue des signes, je ne peux pas me rendre régulièrement à la communion. Donc elle m'a dit, maintenant vous êtes assez grand. Donc ce qui était assez étrange parce que... On aurait pu penser qu'elle s'accroche un peu plus à la pratique. Et justement, je lui ai fait cette remarque et elle m'a dit « Écoute, moi je suis sourde, c'est compliqué pour moi d'accéder à la parole de Dieu pendant la messe. C'est compliqué de comprendre tout ce qui se joue puisque en fait tout le monde se lève, s'assoit, se met à genoux et moi je ne sais pas à quoi ça correspond, on ne m'a jamais expliqué.
» Elle dit tout ce que je... Vous signez pendant la... Est-ce que vous...
Ah non, jamais, jamais, non. Enfin, à l'époque, non. On m'avait jamais demandé d'ailleurs de traduire une messe, c'est une bonne question. On m'avait jamais demandé, mes parents m'ont jamais demandé. Et ma maman me disait, écoute, c'est compliqué pour moi, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu m'aime. Voilà. Et donc je fais avec ce que je peux, et je sais que Dieu m'aime comme je suis, et il comprendra aussi cette limite que j'ai dans la pratique. Et finalement, avec le quotidien, qui est assez prenant dans une famille, que ce soit handicapé ou pas handicapé, on a arrêté on a tous arrêté comme ça, pratiquement du jour au lendemain, sans s'en rendre compte d'aller à la messe. Et donc j'ai vécu à partir de 15 ans sans Dieu. J'ai même rejeté Dieu. Je disais, moi je crois pas en Dieu, je crois en l'homme, en ses capacités de résilience. Voilà, j'avais un esprit très combattant aussi. Qui est lié aussi au fait d'avoir aidé mes parents. Donc moi, je suis un militant dans l'âme. Je mène des combats, peut-être un peu moins maintenant, hein, mais ça, je vous expliquerai pourquoi. Et donc forcément, sans Dieu, sans pratiquer, j'ai mené ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans, où à un moment donné, j'étais très heureux dans ma vie. J'étais propriétaire de mon appartement, j'avais une copine. Je travaillais à la direction du logement à la Caisse d'allocation familiale de Paris depuis 7 ans déjà. Et j'étais entraîneur de gymnastique dans un club. J'étais juge agréé par la Fédération française de gym. Je faisais du sport tous les jours. Donc j'avais une vie à 300 à l'heure, bien remplie. Peut-être trop remplie pour éviter de laisser un peu de place à Dieu. Ça, c'est une relecture. Mais en tout cas, bien remplie. Et un jour... en octobre 2015, j'entends une voix qui me dit « Il te faut du silence ». Voilà. Et c'est drôle parce que finalement, ça rejoint un peu en continuité toute ma vie, tout le parcours de ma famille. Du silence. Pourquoi du silence ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, j'en ai parlé à un collègue qui m'a dit que le meilleur moyen d'avoir du silence, c'était de partir dans un monastère. Et donc, il m'a proposé tout de suite de regarder sur Internet. Et donc je lui ai dit, comme c'était sur mon temps de vacances, pas trop loin de Paris, pas trop loin de la mer, on est tombé sur les Clarisses de La Rochelle. Et donc j'ai dit ok, et j'ai pris une semaine comme ça, quasiment sur un coup de tête. Et donc en arrivant devant le monastère, je vois une vieille dame qui finalement était la mère abbesse, sœur Marie de la Croix, qui s'approche de moi, qui me tend la main, qui me demande mon prénom. Et au moment où je lui dis que je m'appelle Jérémy, elle me dit une phrase que j'avais dans mon cœur depuis tout petit. Je pense, dès 5 ans, j'avais une phrase intérieure. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'en ai jamais parlé à personne parce que je ne connaissais pas le sens. Et donc cette sœur, qui sort de nulle part, me dit cette phrase en introduction d'un échange. Donc là, j'ai lâché la main en disant « Mais ma sœur, vous vous trompez, je vois que c'est une église et moi j'ai quitté l'église, c'est plus ma place. » J'étais un peu déstabilisé par... ce qu'elle venait de me dire. Et donc elle me dit, Jérémy, reste au moins ce soir et demain viens à l'adoration, viens à la chapelle plutôt, parce que c'était plus précis, et demande à Jésus de te désarmer. Donc moi, je passe la nuit à retourner les choses dans tous les sens pour en conclure finalement que Dieu existait vraiment, puisqu'elle ne pouvait pas, absolument pas savoir cette phrase que j'ai dans mon cœur. Cette phrase, c'est « Je suis un bâtisseur et je ferai de grandes choses ». Donc à 5 ans, ça ne veut rien dire. Et après, j'ai mis cette phrase de côté. Et elle l'a fait ressurgir du plus profond de mon être. Et elle me dit « Mais mot pour mot, c'est incroyable quand même. Donc Dieu existe, puisque j'en ai conclu qu'il était passé à travers elle pour me dire « Je te connais ». Et donc je suis venu le matin un peu fatigué de cette nuit de bataille avec Dieu. Et donc j'arrive dans la chapelle, je vois les sœurs à genoux tourner dans la même direction vers un rond lumineux. C'est comme ça que je l'interprétais à l'époque. Et donc je ne savais pas du tout comment me tenir. Et donc j'ai fait comme elle, je me suis mis à genoux et puis j'ai regardé ce rond lumineux et j'ai estimé que c'était à ce moment-là peut-être Jésus. Et donc je l'ai regardé et avec beaucoup de sincérité, j'ai dit « Jésus, désarme-moi ». Et à cet instant-là, en fait, il y a un rayon, c'est toujours difficile à décrire cette expérience, mais comme un rayon lumineux qui part de Jésus et qui me transperce le cœur. Beaucoup de larmes qui coulent à ce moment-là, qui ne sont pas des pleurs, mais peut-être une prise de conscience, en tout cas un soulagement. En tout cas, moi, j'ai vécu trois choses à ce moment-là très claires. Jésus est présent devant moi. Il m'aime infiniment, comme je n'ai jamais ressenti, et il vient me sauver. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit tout simplement, Jésus, je te donne ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à cheminer et ensuite à discerner que j'étais appelé pour le sacerdoce et que je suis rentré au séminaire.
Sacrée conversion.
Sacrée conversion, oui.
Après coup, avec le recul, dans les évangiles, Jésus se met très souvent au service, etc. Il y a une phrase de l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas plus grand amour que de donner... sa vie pour ce qu'on aime. Comment ne pas tomber dans une aide un peu forcée, notamment par exemple quand on a un jeune aidant, qu'on déploie quand même pas mal de ses forces, de son temps pour ses proches. Entendre ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, pas trop lourd, quoi, mais comment ne pas s'épuiser en aimant ?
Comment ne pas s'épuiser en aimant ? Ah ben ça, c'est la question peut-être d'une vie. Mais en tout cas, j'ai, avec un regard de relecture quand même, toujours à préciser, je pense que effectivement, la foi peut apporter un regard particulier pour les aidants et pour ceux qui sont aidés aussi. C'est-à-dire que Dieu aime les hommes. Et donc, il est allé jusqu'à donner sa vie, Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Cette offrande qu'il fait de lui-même, ce don, voilà, puisqu'après il nous donne l'Esprit Saint, en fait toute la vie de Jésus est don, c'est-à-dire totalement tournée vers les autres. J'ai fait à un moment donné dans ma vie de service auprès de mes parents, j'ai converti ce service à rendre en un don, en une offrande, en me disant « Mes parents m'ont donné la vie, en retour, je rends l'amour ». Je rends amour pour amour, c'est un peu ça le principe. J'ai reçu beaucoup d'amour, je rends cet amour à travers ce service. Ne pas s'épuiser, ça veut dire gérer son emploi du temps, gérer sa relation avec ses parents. Et pour ça, moi mon conseil, après ça s'appuie sur mon expérience de vie, mais pour ça je pense qu'il ne faut pas hésiter à passer par une tierce personne, que ce soit l'infirmier à l'école ou le CPE, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui dans les milieux scolaires, mais en tout cas une personne référente dans un milieu scolaire ou un psychologue pour aider. En tout cas passer par une tierce personne ou une personne de confiance dans la famille, ça peut être bien pour un peu tempérer les demandes des parents. Et puis aussi rassurer le jeune en disant qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire, il ne sauvera pas ses parents, parce qu'il y a cette attitude de sauveur qui est très présente chez les aidants. Il ne peut pas sauver tous les parents. Et effectivement, quand on croit en Dieu, quand on sait que Jésus a donné sa vie, quand on sait qu'il demande à ce qu'on vienne à lui et qu'on dépose tous nos fardeaux à ses pieds et que lui, il nous soulagera, en fait, c'est simplement, venez déposer toutes vos difficultés, moi je les porterai pour vous. Et donc effectivement, quand on redonne cette place à Jésus de sauveur, d'unique sauveur, eh bien tout d'un coup, le poids sur les épaules part. part vraiment. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Jésus au Saint-Sacrement. Il m'a déchargé de tout ce que je portais, qui était au début un fardeau et finalement qui était un espèce de poids, comme quelque chose où il fallait forcer, démontrer que j'étais capable de tout, de beaucoup de choses. Et bien là, c'était non, t'as plus besoin de démontrer ça à ton entourage. Voilà, prends soin de moi et moi je prendrai soin de toi. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Et aujourd'hui, effectivement, nos rapports avec mon papa, avec mes frères, ils sont ancrés en Dieu. Et donc, il y a quelque chose de nouveau. Je dirais que, je reviens un peu en arrière, mais je pense que il y a eu un passage décisif dans ma vie en 2010, quand ma mère est décédée d'une opération du cœur. Ce jour-là, c'était un peu quand même le jour le plus triste de ma vie, hein, jusqu'à présent. Mais en même temps, l'année qui a suivi, j'ai réalisé avec beaucoup de gratitude, très, très paradoxalement, ce que le départ d'un parent peut apporter. J'ai essayé de convertir un peu ce regard de deuil en un regard qui peut faire grandir. Et moi, je sais que le départ de ma maman a redonné une place à mon papa dans la famille, m'a redonné une place d'enfant auprès de mon père. C'est pas pour dire qu'elle était un obstacle, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans la relation qui s'est créée. Et avec la relecture, je sais que Dieu, voilà, d'une souffrance, d'une difficulté, d'un deuil, clairement, qui blesse la famille, eh bien, en fait, il fait quelque chose de nouveau. Il porte du fruit. Et ça, c'est comme ça que je l'interprète. C'est propre à mon histoire. Mais j'aime à penser que effectivement c'est comme ça. Et c'est pas juste j'aime à penser, c'est je crois, parce que je crois en Dieu. Je crois qu'effectivement, il y a des situations qui font que derrière, il y a des fruits. Mais ça, c'est seulement dans le cas d'une relecture. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui vient de perdre sa maman. Si on m'avait dit que... Quand j'ai perdu ma maman, si on m'avait dit que c'était Dieu qui souffrait, j'aurais été incapable d'entendre ça. Il y a des messages parfois dans l'Église qui sont inaudibles à des moments précis dans la vie des personnes. Ça demande de la délicatesse, ça demande de l'accompagnement et ça demande du recul. Et ça se fait quelques années plus tard. Voilà, Mais je pense que tous ceux qui ont des parents handicapés ou pas, en tout cas tous ceux qui ont des parcours de vie accidentés, peuvent témoigner de cette relecture de vie qui, finalement, il y a de belles choses qui se font, de très belles choses. Ouais.
Ouais. Donc si je résume un peu tous les bons conseils là, que vous venez de lister pour un jeune aidant qui pourrait nous écouter, donc à la fois en effet de se faire aider, de trouver une personne de confiance dans son entourage, de ne pas endosser, même si c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, ce rôle un peu de sauveur, de prendre des temps peut-être pour relire un peu sa vie, ce que vous venez de dire un peu à l'instant, bon, peut-être pas dans le feu de l'action bien sûr, mais...
Non. Alors si, il y a un vrai conseil important, c'est une des difficultés dans cette relation d'aidant, c'est qu'on est très vite enfermé. On s'enferme avec celui qu'on aide et on réduit le monde à une espèce d'altérité exclusive. Mon conseil, c'est vraiment de cultiver ses loisirs, ses passions, ses amitiés, d'absolument garder un cercle le plus large possible, parce qu'en fait, c'est des lieux qui ressourcent, c'est des lieux qui nous font énormément de bien, qui nous construisent, qui nous font grandir. Et ça, il faut le garder. Donc si j'aime la lecture, eh ben, je continue la lecture. Si j'aime sortir avec mes amis et que ça me procure énormément de bien, je dois sauvegarder. C'est presque de l'ordre de la sauvegarde, hein, vraiment. Si j'aime la musique, je le cultive. Voilà. Si j'aime le sport, je le fais. Voilà, il faut sauvegarder ça. Et puis je pense que les parents peuvent entendre aussi cette demande de garder un cercle un peu plus large que le cercle familial. Et ça, c'est un vrai conseil qui peut nous préserver de beaucoup de difficultés par la suite. Et de pas désespérer pour tous ces jeunes qui sont en plein dedans, hein, les mains dans le cambouis, de pas désespérer, parce que moi, en tout cas, le témoignage que je peux faire de mon parcours, c'est que j'ai reçu énormément de grâce de cette relation. J'ai été effectivement très rapidement autonome. Je suis très sensible au monde, très sensible au handicap, avec un esprit de service quasiment surdéveloppé, qu'il faut aussi tempérer, qu'il faut modérer. Mais une écoute, une attention, une présence, et tout ça dit Dieu en fait. Tout ça, c'est le témoignage de l'existence de Dieu dans nos vies. Donc ne pas désespérer que derrière, ça fait grandir, ça fait vraiment grandir.
Un grand merci, frère Jérémy, pour ce témoignage. Merci d'être venu voilà, sur toutes ces années qu'on comprend, voilà, pas toujours évidentes en tant que jeune aidant de vos parents et de votre grand frère. Et merci voilà, d'avoir su aussi montrer quel trésor ça pouvait aussi cacher, à la fois un lot de souffrance, mais aussi un lot de talents, de trésors que vous avez pu aussi déployer à travers cette situation. Et voilà, on vous invite à évidemment voir d'autres, lire d'autres témoignages sur le dossier consacré donc aux jeunes aidants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème en vous procurant le numéro de la revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt.